Explique ce qui se passe. C'est la stratégie de Laban. Hein. La stratégie de Laban, et je pense quand même qu'il nous restera du temps pour voir la rencontre entre Jacob et les bergers de Laban, au moins cela nous allons l'étudier, et qui est qu'il va utiliser l'argument que ce n'est pas la coutume chez lui de marier la cadette avant de marier l'aîné. Hein. Mais qu'est-ce qui fait le Midrash va mettre en évidence, c'est que je vous explique. Qu'est-ce qui était arrivé? C'est que Jacob a dû, par achat précédent, prendre aussi le rôle d'Ésaü. Alors là-bas, nous dit, tu t'es fait prendre pour Ésaü, tu as pris aussi celle qui était destinée à Ésaü. C'est clair ? Ça veut dire que, au niveau des fonctions aussi, il y a un parallèle absolu. Léa était fiancée à Ésaü, dit le Midrash. Léa, l'aînée, était vouée, promise à Ésaü, l'aîné. Rachel, la cadette, était promise à Jacob, la cadette. Il y a deux tâches à résoudre. Il y avait division du travail, vous vous rappelez de cela, le cours de la dernière fois, la stratégie de la providence à la naissance des deux jumeaux. Okay. Un des deux s'est disqualifié complètement, Ésaü, et par conséquent, Jacob a pris aussi la tâche d'Ésaü. Et nous avons vu, c'est la fin du cours de la dernière fois, que des quatre formules possibles, il n'y en a qu'une seule qui peut réussir, c'est l'homme de la vocation spirituelle qui s'occupe aussi des vocations matérielles. Il est transmis. La rivalité qui va apparaître avec Ésaü dans l'histoire, c'est que l'homme de la vocation matérielle va usurper la vocation spirituelle et la rendre impure. Je vais donner une image, je crois, peut être répétée très clairement, même s'il y a des chrétiens dans la salle ici, je ne crois pas que ça doit les choquer. La voix de Jacob et les mains d'Ésaü, c'est le Romain lisant la Bible et disant « Je suis Israël ». Pour un juif de la tradition juive, il n'y a pas plus clair comme usurpation d'identité. Okay. Vous voyez d'ailleurs dans le contexte la terreur de Isaac lorsqu'il se rend compte de cela. Dans sa pensée, c'était un Ésaü qui avait la voix de Jacob et il a une terreur absolue. Vous vous rappelez du verset dans le contexte. Dans la réalité, c'était un Jacob qui avait les mains d'Ésaü. Et donc, finalement, Jacob a dû prendre sur lui aussi la tâche de Ésaü. Et il n'aime pas ça. Tant qu'il est Jacob, l'homme de la vie spirituelle n'aime pas l'agriculture. La différence entre les kibbutzim et les yeshivot, n'aime pas ça. Et jusqu'à ce qu'on arrive à trouver ce miracle des bachouri yeshivot qui sont des kibbutznikim. Comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez où ça se trouve. Vous avez des adresses pour vous. En tout cas, pour revenir à notre problème, la. J'ai deux choses à vous indiquer. D'abord qu'effectivement, le nom de Jacob apparaît dans l'indice de l'exil et le nom d'Israël dans l'indice de l'exil. C'est en tant qu'il est l'époux de Léa que Jacob reçoit le nom d'Israël. C'est en tant qu'il est l'époux de Rachel qu'il reçoit le nom de Jacob. Alors qu'est-ce que Laban va dire à Jacob? Tu as pris l'identité d'Ésaü, tu dois prendre aussi celle qui lui était destinée. Et je pense que c'est clair, la réponse. Et là, il y a une erreur qu'on fait habituellement dans le contexte, je voudrais la corriger éventuellement. C'est pas que Jacob a travaillé 7 ans pour obtenir Rachel. Et c'est pas qu'il a dû encore travailler 7, puisqu'on lui a donné Léa, qu'il a dû encore travailler 7 ans pour avoir enfin Rachel, non. Malé chez vous Arzot, du verset, c'est les 7 jours de la Roupa. 7 jours après, il s'est marié avec Rachel. Mais en réalité, il a travaillé et 7 ans pour Rachel C'était pas pour Léa qu'il avait travaillé, il avait travaillé pour Rachel. Et les autres 7 ans, encore pour Rachel, et les 7 ans pour le troupeau, 3 fois 7, 21. Donc c'est bien au bout de 20 ans qu'il s'est enfui, un an avant l'achèvement de sa tâche, du point de vue du temps. J'ai cité à ce propos un enseignement des Midrashim qui est très important, et que, quoi qu'il en soit, si vraiment il devait 21 ans de travail, il aurait dû faire 21 ans de travail. Ça nous a coûté cher cette année-là qu'il n'a pas fait. Et on l'a retrouvé à un autre indice logarithmique dans les 400 ans de l'exil d'Égypte, et ça n'était pas suffisant, parce qu'on est sorti 190 ans avant. Alors on l'a payé avec 1900 ans d'exil de l'exil contemporain. Un an, tout ça. Mais je referme cette parenthèse. Il n'y a pas de doute que dans cette dimension de l'histoire de Jacob chez Laban, on voit que Jacob préfère Rachel. Que ça veut dire dans notre histoire, le peuple juif a préféré l'exil, c'est-à-dire s'installer dans ce qui était connu a priori comme un voyage provisoire. Pour faire la micro-analyse, si vous voulez, au début d'un exil, et ça a été vrai dans tous les temps, partout, sans exception, les juifs sont installés à la misvadot, sur les valises, comme on dit en hébreu. Okay. Ils savent qui ils sont et où ils sont. Okay. Et puis, très rapidement, cette exigence réelle de revenir se transfigure, se sublime plus exactement, devient mythique. Et on s'est installé, Jacob et Rachel. Chercher la femme, là, c'est clair. C'est la faute à Rachel, si j'ose dire. Bon. Je vais donc signaler cela, je crois que c'est important de revenir, pour les commentateurs. Rachel est la femme de Jacob, à ce niveau, Jacob Rachel, Yaakov Rachel, Israël Léa. Retenez bien cela, quand même. C'est que Rachel est Shayechet la Galut. C'est la matrice d'Israël en exil. C'est pourquoi elle va mourir au moment où Jacob revient en passant la frontière. Et en enfantant Benjamin, on verra la semaine prochaine dans le texte. Okay. À partir du moment où Jacob revient, les tribus ont été déjà enfantées, engendrées plus exactement dans l'exil, un peu à la manière dont dans notre temps contemporain, où le diagnostic, l'identification par tribu s'est estompé dans le temps, sauf pour la tribu de Lévi, bien entendu, pour certaines familles qui connaissent leur lignée et savent à quelle tribu se rattacher, mais c'est rare, surtout dans la tribu de Judas, mais d'autres aussi. Certaines familles ont gardé leur sefer de racine, leur généalogie, okay. Mais aujourd'hui ce découpage est autre, mais très analogue. C'est le découpage en communautés d'origine différentes. De la même manière que les tribus ont été engendrées dans l'exil, dans la relation à l'universel humain, les communautés, les haïdotes, comme on dit en hébreu, c'est clair pour tout le monde, ont été suscitées dans la relation à l'universel humain. Okay. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Ashkenaz et un Sfarad, c'est qu'ils n'ont pas eu les mêmes goyim, tout simplement. Je pense que c'est clair. Et c'est bien la relation à l'universel humain que nous ramenons avec notre tribalisme enfatif. Et en vue de l'unifier dans le creuset de la municipalité israélienne, qui est un fait messianique à ce niveau-là. Parce que faire vivre ensemble toutes les manières d'être hommes de la terre, il n'y a que les juifs qui font ça. Avec des problèmes, mais au moins il y a un problème. Tandis que si c'est des goyim, il n'y aurait même pas de problème. Et c'est clair ce que je veux dire. Okay. Et donc, Rachel, elle, termine sa fonction lorsque l'exil est terminé. C'est ce que la Torah nous indique en disant qu'elle meurt sur la frontière. Et elle est enterrée sur le chemin de l'exil, la Bethléem. Le Midrash dit pour prier pour sa descendance, les enfants d'Israël en exil. Ok ? J'avais dit une fois, bon, c'était le jour des citations personnelles. Je vous dis qu'on n'invente pas des midrashes. Bon, j'ai inventé un midrash là-dessus. C'est que depuis 67, Bethléem, c'est dans la Médina, la Médina d'Israël. Alors il y a énormément de juifs de l'exil qui sont pour rendre Bethléem, parce qu'ils n'ont plus de protection. Maintenant, c'est la chair des chenilles. Et alors, en fait, c'est vrai. À partir du moment où le temps du retour est arrivé, en principe, il n'y a plus de protection pour l'exil. C'est une mise en principe. C'est-à-dire, il y a eu tous les sursis, et maintenant, les sursis sont achevés, puisque le retour s'est fait. Et alors, c'est pas étonnant que l'identité de Jacob en exil soit devenue si précaire pour l'employé que ce soit. Vous verrez, quand vous étudierez l'histoire de la descente de Jacob dans l'exil d'Égypte, il y a une promesse. Je te protégerai jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que l'exil, c'est périlleux. On peut se perdre. Rappelez-vous l'âme et le corps. On peut devenir un rachard. L'âme et le corps. Vous suivez? Alors, il y a une protection qui est promise pour le temps de l'exil. Où je martyra de la châtelle. Dans la vision de Jacob, la vision des anges. Mais si le temps est achevé, si on a passé tous les sursis, alors la protection est levée. Ça devient FKF. J'ai compris ça à quel point c'est dangereux. Le fait pour Jacob d'être tellement séduit par les affaires du beau-père. Donc vous avez compris.
Pourquoi on trouve le réel de l'amour de
l'Israël et de Israël ? Prenez-le. Il y a des références dans notre texte, mais prenez-le par ce midrash et par comparaison des Rachel. Pour Rachel, c'est dit explicitement. Donc, Léa et je complète, Léa était destinée à Ésaü. Comment la Midrash la prend ? C'est que le texte nous dit qu'elle avait, elle louchait. Elle avait les yeux racontes, okay, les yeux faibles. Le Midrash analyse ce problème jusqu'au bout et nous dit la vérité. Elle pleurait tellement qu'elle avait les yeux délavés. Pourquoi ? Parce qu'elle avait appris que son premier était devenu un gangster. Alors elle pleurait. Vous comprenez bien ça ? Et ça vous explique aussi la relation entre Jacob et Léa, résistante pour Jacob d'intégrer Léa. Okay, c'était pas celle qui lui était destinée. Alors, on dévoile ici quelque chose d'énorme. Jacob est destiné à l'exil, dans Marlou. Okay. Et quand il s'appelle Israël, c'est fini. Mais quand il redescend en exil, de nouveau le texte l'appelle Jacob. Okay. Et nous étions arrivés la dernière fois à cette mise au point. Israël, c'est celui qui a les deux fonctions, les deux capacités, les deux compétences, et celle d'Ésaü et celle de Jacob. Ça s'appelle Israël. Okay. Vous avez fait cette analyse-là, la dernière fois, elle est très importante. La vocation spirituelle est que ça, ça s'appelle Jacob. La vocation matérielle est que ça s'appelle Ésaü. Et puis il y a deux personnages de synthèse. L'homme de la vocation matérielle qui s'empare de la vocation spirituelle et l'obscurcit, ça, c'est les rivalités au judaïsme. Okay. Vous me disiez, le romain lisant la Bible. C'est clair. Et puis, la quatrième équation, c'est l'homme de la vocation spirituelle prenant en charge le problème matériel et le transfigurant. Ça, c'est Jacob. Alors, nous allons voir dans le premier texte. J'ai encore votre question en PMS. Okay. Nous allons voir dans un premier texte, maintenant, je vais le dire en oublier, le fait qu'effectivement, que Jacob, comme tel, est réticent à la vocation d'Ésaü. Nous allons voir, en avoir la démonstration dans notre texte, dans notre parage. Rappelez-moi cela. Okay.
Vous avez établi un cliché entre le fait que Léa était destinée
à Ésaü. Oui.
Et de ce fait, enfin, de ce lien, est-ce qu'on doit déduire que c'est une punition qui est infligée à Jacob
pour
ce qu'il a fait précédemment, ruse à lui, alors il va être également l'objet d'une ruse?
Attendez, j'ai pas employé le mot de ruse, moi.
Non, c'est moi qui
l'ai fait. Vous avez assisté au cours de la dernière fois? Oui, parce que je ne voudrais pas revenir sur l'ensemble des
années. Les explications sont parfaites.
Oui, alors on dit plus ruse.
Mais il y en a qui sont difficiles à intégrer.
Sinon, vous me ramenez en arrière.
Non, mais elles sont parfois difficiles à intégrer.
Non, si c'était clair la semaine dernière, c'était clair. Bon, alors c'est vrai qu'il faut répéter chaque année. C'est pourquoi d'ailleurs, à la Torah, on répète les mêmes parachutes chaque année, jusqu'à ce que ça soit intégré. Mais à partir du moment où c'est élucidé, on passe à un autre niveau.
Bon, alors,
comme on l'a dit, si. Attendez, j'ai pas fini. Non, je ne peux pas vous laisser plus loin, ça, c'est pas clair. Ça veut dire, si vous avez bien compris qu'il ne s'agissait pas de ruse, okay, alors ne parlez plus de ruse. Sinon, je reviens en arrière et je prends un quart d'heure pour vous parler de ça. Non, c'est pas parce que je vous impressionne.
Deuxièmement, Léa, vous faites la corrélation, Léa, oui. Israël, et puis
Jacob,
Rachel, c'est la Gola. Et en même temps, c'est Jacob, et de l'autre côté, c'est Esav. Alors là, on comprend un peu mal, apparemment, ça paraît incohérent, vous allez me dire que c'est tout à fait exact. C'est évident.
Quoi,
le fait qu'il y ait Léa, Israël, Esav.
Ah, mais Esav est disqualifié.
Il est disqualifié.
Et
c'était lui qui était prévu pour
absolument.
Elle. Et elle est rattachée à Israël.
Mais attendez. habituez-vous, je vois la difficulté. La difficulté, c'est que pour nous, ça va de soi, sans problème et sans différence, Zechofef, Jacob Israël. Il y a une distance énorme. Il faut que Jacob devienne Israël. C'est clair ? C'est pas conventionnellement que la...
Et avec Léa ?
Attendez, oui, attendez. Pour notre sujet. C'est pas du tout conventionnellement que la Torah nous établit comme ça une équation d'état civil qui va de soi, Jacob, c'est-à-dire Israël. Par exemple, je vous dis, ne prenez pas ça plus ni moins que ce que je dis. C'est par exemple aujourd'hui la différence entre un juif et un israélien. Bien sûr qu'un israélien c'est un juif, mais un juif c'est pas un israélien. Est-ce que c'est clair, Jacob, Israël ? Vous le connaissez ? Je dirais même plus ce qu'il y a au fond. Un juif et un hébreu. Le juif c'est l'hébreu en potentiel, mais l'hébreu c'est l'hébreu. Et par conséquent, lorsque Jacob devient Israël, alors là, il a les deux kohotes, les deux forces d'identité qui viennent de Yitzhak. Et celle d'Ésaü, mais en cachère, et celle de Jacob. Alors lui apparaît un rival à l'envers, le Romain, qui lui est un Ésaü, mais qui se prend pour Jacob et qui s'appelle Israël. Je l'ai dit très souvent, il faut découvrir cet étonnement massif. Il y a une peuplade qui n'a rien à voir avec les patriarches, qui se rattache à la fondation de Rome par un des descendants d'Ésaü qui s'appelle Magdiel. Vous verrez dans la généalogie d'Ésaü, vous voyez ce que Rashi dit de Alouf Magdiel. Mais aussi un Alouf Lotan, c'est pas lui qui a fondé les latins, malgré l'analogie, mais c'est un certain Alouf Magdiel. Si vous avez vu les métamorphoses d'Ovid, vous verrez qu'on parle de cette histoire-là aussi dans Ovid. En fait, je vais faire une parenthèse latine. Et un peuple qui n'a rien à voir avec les Hébreux et qui se prétend Israël avec une bonne foi, mauvaise foi, en béton armé pendant 2000 ans, les Romains. C'est clair ? C'est-à-dire c'est une identité qui surgit là et qui illustre ce dont la Bible parle lorsqu'Ésaü se prétend Israël. C'est bien clair ? Corollairement à cela, on nous raconte ce qui arrive de Jacob. Jacob, lui, va devenir Israël en témoignant de deux capacités de vocation humaine, celle qui était celle d'Ésaü et celle qui était celle de Jacob lui-même. Mais en tant que Jacob, semble-t-il, et c'est notre sujet, il n'est hypnotisé que par la mission Jacob, c'est-à-dire l'exil. Oui, vous avez compris ? C'est un peu plus clair ? Vous allez retrouver ça par la suite. C'est que, et en même temps ça répond aussi à la dernière question de Rachel, la descendance de Jacob, Israël, par Léa, et la descendance de Jacob Israël par Rachel. Les tribus de la descendance de Rachel, c'est la vocation de l'exil. Et les tribus de la vocation de la descendance de Léa, c'est la vocation avec Israël. Judas et de Léa, Joseph et de Rachel. Et Benjamin avec. Okay. Bon, Benjamin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'achèvement du cycle. C'est le dernier. Mais pour rester dans cette analyse pour elle-même. C'est clair ? Par conséquent, et nous retrouvons au niveau de la multiplicité des tribus cette même polarisation. Mais ça, c'est j'anticipe, ça c'est plus tard, quand nous parlerons des enfants, des 12 tribus. Okay. Est-ce que c'est clair jusque-là pour votre question ? C'est-à-dire que c'est la fonction qui est. Mais essayons quand même d'identifier cela dans. Il peut arriver que lorsque le chrétien, Ésaü, qui se prend pour Israël, parle de sa terre sainte, il y croit vraiment, okay, que c'est une terre sainte. Okay. Et quand c'est un juif qui parle Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe ? Je parle des juifs de la diaspora. À la rigueur, on a transformé Eretz Rabat Halavulbash en slogan de touristes. C'est clair. Il y a un problème là. Voilà. Alors on découvre ce problème. C'est pourquoi il faut se poser la question : qu'est-ce qui travaille comme force ? Qu'est-ce qui fait que Jacob est le Jacob de Laban ? C'est-à-dire l'homme de la vocation de l'exil. Et qu'est-ce qui fait que lorsque Joseph lui installe la Yerida, il y va, il s'installe, il installe tous ses fils avec. Okay. Alors vous allez prendre ces versets-là, vous allez voir que le français est explosif dans le texte, vous allez prendre au moins un verset, c'est quand il descend en Égypte. Alors c'est chapitre 42, si je me souviens bien. C'est pas 42, c'est plus tard. Voilà, j'y suis. Il y a un peu plus loin que 46, c'est le 40, 45. chapitre 46, verset 2. Chapitre 46, verset 2. Vous y êtes ? Je ne sais pas quelle page c'est. Tu as trouvé, donner la page même. Pas plus fort. Hein ? Vous êtes à 36. Hein. 40. Même vague. Et, alors prenez le chapitre 46, c'est quand Joseph a fait appeler son père. Bien. Prenez depuis le premier verset du chapitre 46, suivez bien. Vaïssa Israël, et Israël, on l'appelle Israël d'abord, bien. Il est en Eretz Israël, il a reçu le nom d'Israël, il est en Eretz Israël. Vaïssa Israël, tout ce qui était avec lui, tout ce qui lui appartenait. Vaïabo Be'er HaShavar, il arriva en direction de Be'er Sheva, donc il va vers le sud. Vaïsbar Zerachim, et il offrit des sacrifices, l'éloqué Abiv Yitzhak, au dieu de son père Yitzhak. Je reviens avec tout à l'heure sur ce que dit Rashi en citant le Midrash sur ce verset, pour conforter l'explication qu'on va avoir. Alors regardez bien, verset 2. Vaïomer Elohim et Israël, Bemarot Alayla. Et Dieu dit à Israël dans les visions de la nuit, Vayomer, il dit, Yaakov, Yaakov, Jacob, Jacob. Oui. C'est-à-dire, lorsque Jacob va en exil, il rentre dans la nuit, il est appelé Jacob. Je vais donner un autre verset. Oui. Alors là, Dieu acquiesce à sa yérida. Oui. Il y a quelque chose à faire. Mais là encore, je reviens au même principe que tout à l'heure. Oui. Il fallait marier Rachel. Bon, eh bien, Jacob aurait pu, j'ai donné cette image une fois, arriver sur son coursier, enlever Rachel et revenir à Jérusalem. Parce qu'il va s'installer comme commerçant libanais. Puisque c'est le Banon là-bas, le pays de là-bas. Il n'y a pas une espèce de vertige messianique libanais à Migdash. Vous voyez, c'est clair ? Alors finalement, il va y avoir le choc du réveil de l'antisémitisme de Laban, quel que soit le mot anachronique, pour lui faire comprendre que. Et il s'en fuit une extrémiste. Alors, vous retrouvez l'histoire des Juifs, dans sa naïveté profonde, dans sa bonne foi profonde. C'est une histoire qui nous est déjà racontée. Et alors, on n'est même pas capable de tenir compte des leçons de l'histoire. On connaît la suite. Et un autre verset, c'est le premier verset de la paracha de Vayeshi, chapitre 47, verset 28, le 29. Le début de la paracha de Vayeshi. Ça y est, vous y êtes. Bon, alors je vous lis. Vaïchi Yaakov Beret Mitzrayim, et Jacob vécut dans le pays d'Égypte, Shva Eskeshana, 17 ans. Vaïhi, Yemei Yaakov, Shenechayav, et ce fut les jours de Jacob, les années de sa vie, Shavar Shanim, Valvaim, Omer Shana, 147 ans. Bon, il y a des raisons pour lesquelles on donne toutes ces informations, qui sont apparemment d'ailleurs des répétitions, mais pas vraiment. Il y a des raisons pour cela, c'est pas l'usage de ce verset qu'on va voir maintenant, mais une des questions du Midrash en évidence. Une espèce d'étonnement fondamental. Comment le texte peut dire « Et Jacob vécu en Égypte ». Est-ce qu'on peut vivre en Égypte ? Vous dites « Vaïchi ». Vous entendez en hébreu « Vaïchi » c'est Jacob. Jacob peut vivre en Égypte, pas Israël. La preuve, verset suivant. « Vaïchrevu, yémei Israël la mort ». Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Pourquoi ? Parce que Jacob vit en Égypte. Vous êtes dans le texte. Alors, vous avez une deuxième question. Alors, ça veut dire que l'emploi après l'épisode où Jacob reçoit le nom d'Israël, l'emploi de nouveau du nom de Jacob, ça implique une baisse de niveau dans le profil de l'identité. On est de nouveau le Jacob à l'indice de l'exil. C'est clair ? Je dirais que c'est un peu comme ça. Il y a ici une espèce de providence du langage, je ne sais pas qui est assez massive. On ne nous a jamais appelé Israël quand nous étions en exil. Dès qu'on revient de l'exil, on était les Juifs, les Israélites, ce qui est une espèce d'hypocrisie du langage. Et, parce qu'Israélites, ça voulait dire Français, Britanniques. On revient, alors on nous appelle Israël. Et le profil du Juif se redresse. Le point d'interrogation du doute. C'est redressé, c'est un point d'exclamation de l'humanité entière. D'un coup, vous comprenez ? Et c'est arrivé comme ça. D'un coup, Jacob devient Israël. Boum, le monde entier entre en France. Les Juifs aussi. Bon, donc, le problème, il faut bien faire du fiasco. C'est qu'on découvre pas à pas. Seul Jacob peut être Israël, c'est sûr. Mais il faut qu'il le devienne. Et c'est une lutte qui nous est racontée. Allez, il faut la décrypter, comprendre comment ça se vit. Là. Voilà, je pense que c'est clair, justement.
Pourquoi Jacob est mort pour faire un juif ? Pourquoi on l'appelle Israël pour les femmes
mortes ? Non, regardez bien. Et on n'appelle pas Israël. Il dit, les jours d'Israël s'approchent de la mort. Israël est éternel, il ne peut pas mourir. C'est jour. Ah. Il aimait. Vous vous y êtes ? Le texte ne peut pas dire qu'Israël est mort. Ben, c'est blasphème, c'est la Bible d'Israël. Alors, les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Ça veut dire que le temps d'Israël s'achève. Commence le temps de l'exil. C'est clair ? Je vais ouvrir une parenthèse zootique une fois, je ne sais pas si c'est ici. Je vais dire que j'avais entendu un enseignement de M. Neher, qui est extrêmement fin à ce sujet. Vous savez comment on dit l'histoire en hébreu ? Toldot. Et c'est ce que nous étudions, les Toldot. C'est l'histoire des engendrements. L'histoire des événements se dit Divrayamim. Alors il y a une notion qui se rattache à la notion de Divrayamim. Il y avait d'ailleurs, M. Neher a ajouté aussi une notion très jolie, très belle. C'est qu'il n'y a pas seulement Divrayamim, il y a aussi Divrayalot. Il n'y a pas que les jours qui parlent, il y a les nuits qui parlent aussi. Et alors. Il y a une expression qui se rattache à cette définition de l'histoire comme livré à Yamim, les chroniques, littéralement en français, en grec, je suppose, c'est la notion de Aharit à Yamim. Vous mettez au tableau, Aharit à Yamim que vous avez chez les prophètes. Et on va voir comment les prophètes, comment on traduit cette expression. On traduit habituellement la fin des jours. Mais en hébreu, de façon plus littérale, c'est là que je cite missionnaire, Aharit Ayamim, ça ne veut pas dire les derniers jours, j'ai entendu faire un tel, Aharit Ayamim serait ici dans les derniers jours. Ça veut dire ce qui est après les jours, Ahar, après les jours. Alors la notion d'Aharit Ayamim, qui est l'expression par laquelle les prophètes désignent le temps messianique, l'Ayab Aharit Ayamim, et il arrivera, on traduit à la fin des temps, c'est après les jours. Alors, signifie donc que tous les peuples ont leur temps d'histoire, c'est leur Yamim, et ils ont les livres Yamim, les chroniques de leur histoire. Il y a un cas particulier, c'est Israël, qui même lorsque son temps est achevé, il a encore un Aharit Yamim, qui est la dimension de l'exil. Et c'est pourquoi ça signifie chez les prophètes, il arrivera à la fin des temps de l'exil. Puisque les prophètes messianiques, les prophéties messianiques des prophètes, c'est bien pour la fin des temps d'exil. Quand Isaïe dit Ve'aya Be'acharit Hayamim, il veut dire très exactement, il arrivera à la fin des temps d'exil, pas à la fin des jours de l'histoire du monde. Okay? C'est clair ? Alors, tous les peuples ont leur Yamim. Et quand c'est fini, c'est fini. Voilà qu'il y a une dimension de survie dans la nuit, pour Israël qui s'appelle Jacob. C'est l'exil qui est une soupape de survie. Mais c'est la nuit. Mais c'est quand même une soupape de survie. C'est la nuit qui annonce un jour. C'est clair cela ? En fait, chaque fois que je prenais congé de mon maître pour aller en exil, il me disait « Laïla Tov ». Vous pouvez le citer. Et alors, il ajoutait d'un bras rose, mais enfin, il commençait à dire « Laïla Tov ». Il savait de quoi il parlait. Et alors, bon, voilà, c'est clair, je pense. C'est que le nom de Jacob est à l'indice de la galoute, alors que le nom d'Israël est à l'indice de l'Israël. C'est dans la semaine prochaine, au retour de sa galoute, de son exil, que Jacob va recevoir, et ça ne va pas être simple, le nom d'Israël. Je pense que nous vivons, encore une fois d'une certaine manière, et c'est la difficulté de la méthode par analogie que j'atteins encore par cet exemple, cela, c'est que en fin de compte, après une nuit de lutte, l'ange d'Ésaü finit par nommer Jacob Israël. Mais jusque-là, il ne va pas l'appeler Israël. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à la position du monde entier, qui ne nous reconnaît pas le fait que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Ça ressemble à ça. On ne dit pas à Jérusalem, on dit Tel Aviv. Qui savait à quel point était Tel Aviv ? C'est prophétique dans le prophète. Hein. Je vous montrerai un jour, je vous cherche la référence, comment les prophètes ont prophétisé Tel Aviv. Oui.
Chapitre
30. La même tête. Oui. Non.
Il y a écrit,
oui.
Et d'ici, voilà, que s'approchait
du jour
de la mort.
Oui, et on l'appelle Israël. Bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit à voix assez claire. C'est ceci. Vaïkhi Yaakov Beret Mitzrayim, et Jacob a vécu dans le pays d'exil. La première question, c'est et comment on peut vivre dans le pays d'exil, dans le pays d'Égypte, qui est le pays d'exil. Le Midrash répond, c'est Jacob qui vit. Vous ajoutez encore une autre réponse, puisque j'ai repris cela. Il a vécu 17 ans, nous dit le verset, en Égypte. Et le texte il dit parce que Jacob n'est vivant, Jacob, que s'il est avec Joseph. Il a été 17 ans avec Joseph en Égypte, et 17 ans dans le pays de Canaan avec Joseph avant l'exil de Joseph. Vous vous rappelez, il était âgé de 17 ans quand c'est arrivé. 17 et 18, ça fait 34. C'est la valeur numérique du mot « il vécu », « vaïkhi », ça fait 34. Il a vécu 34 ans, 17 là et 17 là. Ça va jusque là ? Et alors, le verset suivant dit « vaïkhi-lou, yémé Israël, l'amour ». Retenez que ce n'est pas Israël, mais yémé Israël. C'est-à-dire, si Jacob s'installe en Égypte, l'identité d'Israël disparaît. Et les jours d'Israël s'achevèrent, s'approchèrent de la chèvre. Pas Jacob. Jacob avait nous l'omède. Jacob, Jacob n'est pas mort. Mais le profil d'Israël, une yérida qui mène à l'assimilation. Vous voyez ? On ne parle plus d'Israël, on parlera de Jacob. Les jours d'Israël. Ça, je vous expliquer avec M. Neher. C'est-à-dire que, je reprends, chaque civilisation a son temps d'histoire, et après c'est un vestige. Il y a un cas particulier qui traverse l'histoire, le peuple d'Israël. Il a une soupape de survie qui s'appelle Jacob, l'exil. C'est clair ? Imaginez, une minute. Imaginez toutes les nations contemporaines de l'antiquité hébraïque. Quoi elles sont ? Fini. Elles ont eu leur jour. Bon. Eh bien, dans le même modèle, les jours d'Israël se sont approchés de leur fin, et malgré cela, il y a une dimension de survie. C'est un cas particulier. C'est clair ? Donc, vous aimez Israël, l'amour, et pas Israël. Je pense que tu as la réponse, même. Vous me direz, ok. Alors, de l'ostira, qui cache Yotze me Mitzrayim, Azakatou Chazer, le Mechanel Oto, Israël, de l'ostira. Et la question a été qu'il y a peut-être une contradiction avec ce qui est indiqué par un des versets. Non, c'est un midrash, c'est un verset. Que Abraham et Jacob sont sortis de leur exil, Béchalom, en paix. Okay. Mais le sujet était autre. C'est que tant qu'ils sont en exil, l'un s'appelle Abraham et pas Abraham, et l'autre s'appelle Jacob et pas Israël. Le fait qu'ils soient sortis en paix, c'est leur mérite de tzaddik. Okay? Mais là, je ne pensais pas que ce serait tellement difficile à exprimer cela. Ça devrait aller de soi dans notre expérience. Il y a deux profils d'identité radicalement différents. Bon, c'est vrai que nous sommes dans une génération de transition, toutes les générations sont de transition d'ailleurs, entre le temps des Juifs et le temps des Hébreux, entre le temps de Jacob et le temps d'Israël. Mais enfin, je suppose que s'il y avait des tzadarim parmi vous, ils auraient attrapé ça en une demi-phrase. C'est clair. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut leur dire, Sabri Maranam, ils ont un privilège. Top. Est-ce qu'il y a... Donc, j'ai plus assez de temps, mais on commence pour la prochaine fois avec votre question. Okay. Là, je vous rappelle la question, c'est que la vertu qui est attribuée à Jacob, c'est Emmet, la vérité. Or, apparemment, c'est l'histoire d'une ruse, comme dirait notre collègue. Oui, c'est pour ça qu'il y a... J'ai dit comme disait. Alors, on verra ce problème. D'ailleurs, il y a un rachis pour vous. Le texte dit, quand Esaü parle... Et quand Isaac parle à Esaü, il dit « Bah, Hira de Mirma, ton frère est venu avec ruse. Okay. » Rashi corrige le texte, il dit « Bah, Hochma, pas de Mirma. » Regardez bien Rashi. Alors on se reverra donc. Alors,